vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama l'été.
On va s'enfourrer jusqu'à là.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
On se passe de l'actualité.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Je m'en fous.
Cinérama l'été, trois séries pour vous contenter.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est l'été et nous vous avons préparé des séries, chacun la nôtre. Toi Manu, tu as décidé de nous parler des films fantastiques réalisés par des réalisatrices françaises.
Et donc là, je vais vous parler donc de Revenge en attendant la sortie prochaine du nouveau film de Coralie Farja, The Substance.
Oui, qui a été primé à Cannes, à ma grande surprise, puisqu'il a reçu le prix du scénario. Quant à toi, Guillaume, aussi un film.
Oui, moi je vais vous parler d'un petit film un petit peu oublié, mais extrêmement sympathique, qui s'appelle Passé virtuel.
Et moi je vous parlerai des génériques selon Godard, voilà, parce que eh bien, le réalisateur suisse a toujours essayé de faire les choses un peu différemment. Mais on commence avec un film pas forcément très bavard, mais très visuel, c'est Revenge.
Cinérama.
Cinérama,
les réalisatrices françaises de films fantastiques.
Mais c'est le rêve des ménagères.
Ça doit être probablement spirituel, mais j'avoue que je n'y comprends rien du tout.
Dès le début, hein, le titre Revenge s'affiche en large et en travers sur tout l'écran. Alors, comme une manière un peu forcée hein, de se créer un passage, de frapper un grand coup et d'avancer fièrement, sans retenue, vers un territoire cinématographique verrouillé jusque-là par un univers, on va dire, essentiellement masculin. C'est d'ailleurs par ce prisme en trompe-l'œil que débute Revenge, premier long métrage de Coralie Farja, qui joue avec beaucoup de malice et de perversité avec les codes du cinéma, on va dire, hétérobeauf. Alors, si on ne lit pas entre les lignes, hein, l'agacement peut prendre le pas sur la fascination et le rejet peut s'avérer irréversible. Un riche homme d'affaires, insuffisant et puis un peu bimbling, emmène sa maîtresse en hélicoptère dans une superbe villa de luxe, perdue en plein désert US. L'architecture prétentieuse de la demeure est le catalyseur de l'étalage de vulgarité qui va suivre. Évidemment, la maîtresse est une bimbo ultra sexy, un objet sexuel s'adonnant sans retenue à tout ce que l'on attend d'elle. L'imaginaire cinématographique du spectateur fonctionne alors à plein régime.
Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, putain?
Elle aurait pu nous envoyer un tôle, tous les trois, pour 15 ans. Alors maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. On descend pour chasser comme prévu, mais on fait juste un crochet pour nettoyer ce merdier. Et on ramène nos trophées bien gentiment, comme chaque année. On fait rien d'inhabituel qui puisse sembler suspect. Et tout ira bien.
Puis débarquent les hommes de main de Richard, hein, qui semblent être à la croisée du chef d'entreprise et du gangster, on ne saura jamais vraiment. Des types un peu minables, reluquants, sans vergogne, alors comme dans un clip un peu pourri, ou un bis décomplexé des années 70, le corps sublime de l'héroïne, Jane, formidable d'ailleurs Mathilda Lutz, qui ne sait pas alors dans quel pétrin elle s'est fourvoyée. L'outrance surlignée est un miroir déformé du regard de la réalisatrice, qui affiche une dimension ironique et dévastatrice, même issue de certains comics, et si on exagère, il y a même des références, on dirait à Tex Avery. La soirée s'annonce chaude, champagne et drogue circulent dans un décor paradisiaque sur fond de R&B et électro grossière, atteignant des sommets de putasserie visuelle. Coralie Farja enfonce le clou, se complaît dans le clinquant pour mieux s'en affranchir par la suite et laisser exploser son talent. Les choses dérapent, un des deux types viole Jane pour ne pas ébruter l'affaire, étant donné qu'en surface, Richard est un brave père au foyer. Elle est emmenée dans l'enfer jaune du désert et laissée pour morte empalée sur un bout de bois. Et miracle, comme seul cinéma arrive à nous faire croire pour notre plus grande jubilation, elle reprend vie malgré tout le sang qui s'écoule. Et c'est parti pour une chasse à l'homme, ou plutôt une chasse à la femme, hein, où la proie n'est pas forcément une innocente biche. Le survival se transforme en redoutable rape and revenge, jouissif et abrasif, d'une violence incontrôlée, si excessive qu'elle en devient irréelle, pur élément esthétique au cœur d'un film débridé. Et qui flirte d'ailleurs à partir de là avec quand même un peu avec le fantastique.
Putain, on est mort, quelqu'un a dû passer, l'a embarqué.
S'il est pas mort sur le coup, il est juste en train de crever un peu plus loin, c'est tout.
Écoute-moi, il est peut-être pas trop tard pour faire marche arrière. On l'amène à l'hôpital, on dit que c'est un accident. On fait jouer les avocats, ils trouveront un truc. Ils trouvent toujours un truc. Ce sera toujours une option.
On n'appelle personne, et on dit rien du tout. C'est quoi ton problème? Elle est seule, elle a le ventre ouvert, on est trois, armés. Alors de quoi t'as peur, hein? Tu sembles avoir des couilles quand tu t'es amusé avec elle. À
alors ramasse-les. Et on descend la trouver.
Imparfait mais généreux, hein, Revenge impressionne par la maîtrise de la mise en scène, la présence physique de l'actrice principale qui passe de poupée Barbie à machine à tuer. Il y a quelque chose de salvateur dans cette manière de salir le corps de l'héroïne qui n'en apparaît que plus séduisante et érotique, couverte de sang, de blessures, de boue. Après un démarrage en trompe-l'œil qui peut laisser craindre le pire, hein, mais totalement justifié a posteriori, ce Rape and Revenge, hein, jusqu'au boutiste, énorme, gore, sexy et culotté, ne vous lâchera pas d'une seconde. La virtuosité formelle est à son apogée lors d'un plan séquence magistral vers la fin, où, pour une fois, ce n'est pas l'héroïne qui se retrouve nue, mais le mâle dans une situation critique.
Inspectez chaque recoin, chaque cavité, chaque chiure de fenêtre. Je couvre la face est, toi la face ouest, et on se retrouve ici. On en a pour 3 heures. 4 à tout casser.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se séparer. On risque de se perdre, nous aussi. On va s'affaiblir. C'est quand t'es perdu en forêt. On dit toujours de pas te séparer. Et au contraire, de rester groupé.
Mais est-ce qu'on est perdu en forêt, là ? Est-ce qu'on est perdu dans une putain de forêt, là ? J'ai pas entendu.
Non.
On se fait signer mi-parcours quand on revient ici.
On pardonnera les quelques faiblesses de débutants sur des dialogues parfois ringards et une direction d'acteur pas toujours maîtrisée, mais ce n'est rien comparé au plaisir que procurent ces petites bombes assumant pleinement son côté premier degré et immersif. On reste scotché sur notre fauteuil devant ce spectacle jouissif et furieux, utilisant à merveille l'espace, notamment le désert et aussi la villa. Coralie Farja n'a peur de rien, alors plus c'est énorme et plus ça passe. La séquence du trip dans la grotte est un grand moment de cinéma transgressif. Et puis comme disait Télérama en son temps, attention, âme sensible, s'abstenir. Parce que c'est quand même bien violent, enfin, faut quand même avertir. Même si c'est grotesque, hein, on est quand même plus, moi je le ressens comme ça dans le cartoon. Que dans un film
que dans le premier degré.
Très sérieux. Oui, en fait,
oui. Alors, pour moi qui n'aime pas tellement le Rap and Revenge, j'avoue que j'ai été assez captivé par ce qu'a proposé Coralie Farja, contrairement à The Substance qui va sortir au mois de novembre, où là tout était excessif. J'ai jamais vu autant de paires de fesses sur un écran. Il y a plein de personnages caricaturaux. Enfin, elle est allée vraiment, vraiment beaucoup plus loin.
Là, il y a des choses assez, j'ai intelligence, c'est assez malin quand même. J'aime beaucoup cette fin où le personnage masculin est nu et poursuivi par cette fille, parce que là, il renverse finalement une situation habituelle où on a le contraire. Et je trouve que c'est assez réussi, surtout qu'elle joue avec les codes, on va dire, d'un cinéma très très voyeur en fait. Et je trouve que le fait bien en fait.
Oui.
Je pense que ce qui est révélateur aussi du fait que c'est vraiment réussi et qu'elle est, comme tu l'as dit, jusqu'au boutiste, le film a quand même suscité à sa sortie un assez gros tombereau de haine sur les réseaux sociaux. C'est... Je pense que ça ne serait pas arrivé. Alors, je le dis rarement ce genre de phrase, mais je pense que ça ne serait pas arrivé si ça avait été un homme qui avait regardé le film. Je ne sais pas. Mais il y a une réception qui a été vraiment extrêmement violente par rapport à Coralie Farja, qui était nominément citée comme étant...
Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, finalement, il arrive un peu la même chose pour des raisons peut-être différentes à Julia Ducournau, hein, où aussi il y a une, il y a eu aussi une forme d'acharnement. Alors, pour quelle raison?
J'avoue que je suis moins sensible.
Mais t'es moins sensible, mais je trouve que c'est quand même très excessif, en fait. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre, qui est lié à leur statut.
Je trouve ça vraiment extrêmement violent, oui.
Alors, ce qui est intéressant, par ailleurs, tu parlais une autre fois qu'il y avait des femmes donc qui faisait un film fantastique et qui ensuite était un peu mise sur la touche. Là, c'est pas le cas. Enfin, de Ducournau et de Farja,
elles insistent,
elles sont produites surtout. Et là, Farja, on parle quand même d'un film avec Demi Moore, Margaret Qualley. Enfin voilà, c'est ultra bien produit et en plus ça va à Cannes quand même. Ça remporte un prix.
C'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Parce que ça peut quand même donner un peu d'espoir pour la suite.
Et puis, tu l'as mentionné, je rebondis encore deux fois une fois dessus, hein, mais je pense que c'est vraiment la naissance avec Revenge d'une vraie bonne réalisatrice. Elle est une mise en scène qui est très rigoureuse, très découpée, très bien pensée. Et donc, moi, j'ai pas vu The Substance. Bah, mais,
très découpée aussi.
C'est quelqu'un qui, je pense, va prendre encore plus de d'ampleur avec des budgets.
C'est une formaliste, franchement.
C'est une formaliste et je pense que ce qui lui a valu quand même beaucoup de critiques, c'est vrai, ce sont ces dialogues un petit peu ringards, ces directions d'acteurs des personnages masculins qui est pas tout à fait qui semble sortir un peu des fois d'une production Besson et je trouve qu'il y a un petit décalage en fait, mais je veux dire c'est un premier film et un premier film est rarement exemple de défaut et surtout dans ce type de cinéma où c'est rarement les interprètes qui finalement deviennent l'intérêt de ce type de film. Il y a un côté grotesque. Moi j'ai vu un côté Bibi le Coyote et qui m'a ça m'a assez amusé. Ça peut terrifier mais moi ça m'a beaucoup amusé en fait.
Pervers. Allez, nous parlions donc assez longuement finalement de Revenge mais parce que c'est vrai que la réalisatrice vaut le coup d'œil. Passons maintenant au générique de film.
Cinérama. Cinérama.
Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?
Une petite histoire du générique.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Alors, quand j'ai entrepris d'évoquer l'histoire du générique, l'histoire du générique, c'est beaucoup dire d'ailleurs, mais de parler de générique en tout cas, et décider de mettre en lumière ceux de Sacha Guitry réalisés avant et après la Seconde Guerre mondiale, les membres de l'équipe m'ont tapé sur l'épaule et m'ont dit « Mais non, mais quand même, Jean-Luc Godard, tu en parles ?» Donc oui, quand il s'agit de générique, il faut parler de JLG, le réalisateur suisse ne pouvant passer à côté de cette entrée en matière, tant ces films innovaient dans leur forme. Alors, par quoi commencer ? D'abord, Godard est en quelque sorte un héritier de Saul Bass, à ceci près que son effort graphique est davantage tourné vers la typographie, lettres semblant manuscrites dans ses premiers films et grandes lettres dans les suivants. Celles-ci ont leur importance. Pour appuyer cela, une citation tirée de l'ouvrage Godard simple comme bonjour. Le générique convoque le mot, l'écriture, la typographie, alors que le film, depuis qu'il est parlant, associe l'image et le son. Ainsi, toute relation film-générique qui contrevient à ce fonctionnement de base manifeste une intention en marge de la stricte nécessité. C'est ici que peut s'articuler une réflexion sur les génériques selon Godard. Donc, le générique de À bout de souffle est vite expédié, hein, en 10 secondes avec juste la mention du titre et très vite Belmondo qui part.
Après tout, je suis con. Après tout, si, il faut. Il faut !
Pour Made in USA, par exemple, la typo est plein cadre, bleu, blanc et rouge. Godard s'amuse en écrivant à la manière dont on réduit finalement les États-Unis à USA, les noms de chacun des participants du film à leur initiale, ce qui donne donc un JLG joué par AK, LS, JPL, MF, IA, etc., soit Anna Karina, Laszlo Szabo, Jean-Pierre Léo, Marianne Faithfull et Yves Afonso. Pour Pierrot le Fou, les lettres rouge et bleu apparaissent petit à petit pour former les mentions du générique, soit les deux acteurs principaux, le titre du film et le réalisateur, avant que ne demeure plus que le titre du film et la voix de Jean-Paul Belmondo encore.
Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds, les palpitations colorées dont il faisait le cendre invisible de sa symphonie silencieuse.
Pour le mépris, le titre est en rouge sur fond noir avant qu'apparaisse l'image d'un tournage, alors qu'il montre un travelling et une voix off qui donne les mentions. Le travelling s'achève avec l'imposante caméra qui opère un mouvement de contre-plongée fixant l'objectif, donc nous, hein, spectateurs, car ce film a trait au cinéma.
C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Jamol. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sivel. Le montage est d'Agnès Guillemot. Philippe Dussard s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. Il est tourné en scope et tiré en couleur par GTC à Joinville. Il a été produit par Georges de Beauregard et Carlo Ponti pour les sociétés Rome Paris Film, Concordia, Compagnia Cinematographica Champion à Rome. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Et l'histoire de ce monde.
Au passage, Godard donne sa conception du cinéma, à la fois conçue comme un art et une industrie qui procède d'une illusion. Pour ceux qui ont suivi l'émission où il était question des génériques de Sacha Guitry, eh bien celui-ci peut s'y apparenter, tant il met en abîme le cinéma, ce que faisait aussi le metteur en scène de théâtre. Godard fait davantage dans la simplicité en ne convoquant qu'un plan-séquence. En matière de rythme, on a vu mieux. Alors, de manière très étrange, un film audacieux comme « Sauf qui peut la vie » ne fait pas apparaître un générique de la même veine. Il est très classique, le soin pour les lettrages est complètement mis de côté. Pour « Vivre sa vie » en 1962, film que j'apprécie énormément, Godard met son nom au même niveau que le visa de contrôle, indiquant « penser, dialoguer, tourner, monter », bref, mise en scène par J.L. Godard. S'ensuit le titre sur le visage d'Anna Karina, quelques mentions de comédiens et la musique qui commence et s'interrompt à plusieurs moments. Nous aurons le temps de voir le visage d'Anna Karina, la prostituée du film, de côté, de face et de côté, encore une fois, le film adoptant bien souvent ce principe de mise en scène, c'est-à-dire filmer les personnages de dos ou de côté. Autre film où le lettrage n'est plus dominant, Alphaville, le film de science-fiction de Godard qui nous montre un phare, semble-t-il, de voiture qui s'éclaire de manière alternative avant que le film ne s'ouvre sur cette voie alors emblématique du long-métrage qui dépeint une cité, Alphaville, où les sentiments humains ont été abolis. Le film s'ouvre sur des mots donc dits par la voix d'Alpha 60, une voix amplifiée mécaniquement d'une personne opérée d'un cancer de la gorge.
Il arrive que la réalité soit trop complexe pour la transmission orale. La légende la recrée sous une forme qui lui permet de couvrir le monde.
Parmi les éléments étranges liés au générique, celui de Weekend se tient là, car les mentions en bleu et grosses lettres, un film trouvé à la ferraille, un film égaré dans le cosmos, eh bien, interviennent aussi bien au début du film, normal, qu'aux trois quarts.
Alors, j'ai ouvert la porte. Paul a enlevé son manteau et a demandé s'il y avait quelque chose de chaud. Monique lui a dit qu'il n'y avait que du whisky, du vin rouge dégueulasse. Elle s'est mise à rire. J'ai enlevé mon affaire. Monique m'a regardé. Elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air de trembler.
Voilà, en quelques minutes, ce qu'on pouvait dire sur les génériques de films de Godard. Évidemment, je ne me suis pas retapé toute la filmographie de Godard. J'ai pris les principaux et ceux dont je me souvenais. Autre série estivale, nous parlons des films qui ont vu 2024. Comment l'ont-ils vu ? C'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
Cinérama.
Attention, Cinérama. Tout le monde Cinérama. À l'écoute. Attention.
Comment certains films ont vu 2024 ?
Disons que c'est de la prémonition.
Prémonition. Prémonition.
C'est quoi votre truc ? Un jeu vidéo géant ?
Non, pas du tout.
Il est capable de fonctionner sans aucune interaction avec l'utilisateur. Ces unités sont de véritables cyborgs, des cyborgs autodidactes.
Des unités.
Ce sont des simulations électroniques de personnages. Elles peuplent le système. Elles pensent, travaillent, mangent.
Elles baisent.
Eh bien, disons qu'elles sont faites à notre image. Là, nous travaillons sur le prototype Los Angeles 1937.
Pourquoi 37 ?
Fuller a voulu qu'on commence par recréer le Los Angeles de sa jeunesse.
Il fut un temps où l'un des maîtres d'Hollywood fut un certain Allemand du nom de Roland Emmerich. Mais si, vous le connaissez bien, c'est le grand monsieur derrière des divertissements explosifs comme Universal Soldiers, Stargate ou encore Independence Day qui fut le méga carton de 96. Lorsqu'on est au sommet d'Hollywood, on produit aussi et Emmerich va faire un choix quelque peu étonnant en se tournant vers Passé Virtuel ou The 13th Floor, soit le 13e étage en version originale. Alors étonnant, pas tant dans son genre, qui est clairement de la science-fiction que le Teuton a déjà bien exploré, mais parce que Passé Virtuel va être beaucoup plus sobre et mystérieux que ses propres réalisations. Alors il convient toutefois de rappeler aux plus jeunes d'entre vous qu'en 99, le thème de Passé Virtuel est totalement à la mode, ce sur quoi nous allons revenir bientôt. Alors Passé Virtuel met en scène Anon Fuller, un informaticien de génie. Il a mis au point un programme, un univers virtuel qui recrée les années 30. Le transfert se fait via une machine ayant pour nom le Simulacron. Si tout semble aller pour le mieux, il laisse néanmoins à son associé Douglas Hall une lettre révélant une découverte effrayante qui pourrait remettre en cause beaucoup de choses quant à son invention. Alors peu de temps après son retour, Fuller est froidement assassiné et bien évidemment toutes les pistes semblent accuser Douglas. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, il va devoir s'immerger à nouveau dans le monde virtuel du Simulacron et devoir aller au-delà de ce que projette la machine pour découvrir quel sombre dessin bien humain se cache derrière.
La première fois que c'est arrivé, c'était quand ?
La toute première fois ? Il y a environ un mois.
Et la dernière fois, c'était il y a 3 nuits, c'est cela ? Cela dure environ 2 heures.
Ma femme pense que je mène en cachette une vie amoureuse.
Attendez, avez-vous des... espèces de flashs, des impressions de déjà-vu ?
J'ai combattu pendant la Grande Guerre et souvent, la nuit, j'en fais encore des cauchemars.
Des fantasmes, est-ce que vous en avez ?
Oui. Oui, j'avoue que j'en ai.
Vous avez le fantasme de coucher avec des jeunes filles.
À mon réveil, j'ai même sur moi l'odeur de leur parfum. J'en ai partout.
Vrai ou imaginaire ?
Hein ? Si j'en crois ma femme, ça fait plutôt vrai.
99, une année tout en monde informatique vert et en faux semblant. Alors déjà, on pense beaucoup à l'excellent Existence de David Cronenberg sorti à peine quelques mois plus tôt et qui est ressorti début juillet en salle. Car le long métrage de Joseph Ruznak qui croise le polar noir et la science-fiction s'interroge sur les mondes virtuels, la frontière entre réalité et fiction et la capacité des intelligences artificielles à prendre vie. Alors ce n'est pas une immense surprise pour le spectateur car le croisement entre polar noir et science-fiction a déjà donné naissance à un univers graphique maintes fois copié, celui de Blade Runner de Ridley Scott en tête. Sauf qu'ici, on n'est plus dans une simulation rétro qui fait penser à certains épisodes très célèbres de Star Trek La Nouvelle Génération, où les membres de l'équipage de l'Enterprise vont enquêter dans la simulation du holodeck, soit un environnement virtuel qui peut tout représenter et dont toute une histoire va faire la part belle à cette période des années 30. Alors Passé Virtuel n'a pas de grandes stars, mais quelques gueules reconnaissables et appréciées comme Vincent D'Onofrino, c'est l'éternel engagé baleine de Fullmetal Jacket, Armin Müller-Stahl qui va jouer le vilain homme de l'Est dans pléthore de productions américaines, et un Denis Iceberg pas encore président des États-Unis de l'excellente série 24 heures chrono. Son acteur principal, Craig Bierko, génial méchant dans le non moins génial Au revoir à jamais de René Harling, ne transformera jamais vraiment l'essai sombrant dans les nanars comme Scary Movie 4 ou Super Hero Movie. Car oui, Passé Virtuel ne sera pas le grand gagnant de l'année 99, et même loin de là. Il n'aura pas eu un succès phénoménal puisqu'il rentrera à peine dans ses frais, mais il possède un scénario malin, à tiroir et à connotation très Philip K. Dick, juste avant qu'il y ait une petite explosion, un succès de film, thriller ou film de SF, inspiré directement des écrits du célèbre auteur de science-fiction comme Minority Report de Steven Spielberg, Paycheck de John Woo ou encore A Scanner Darkly de Richard Linklater.
Vous avez lu la lettre. Écoutez, j'ai besoin de savoir ce qu'elle dit.
Elle dit tout. À la première lecture, j'ai cru à un gag, se dire que le monde est un attrape-nigo, ben tiens. Mais je suis pas si bête que ça, monsieur Hall. Je vous ai vu avec Ferguson faire votre petit tour de passe-passe. Et les instructions comme quoi il fallait aller aux confins du monde.
Quelles instructions d'aller aux confins du monde?
J'ai fait exactement ce que disait la lettre. J'ai choisi une ville où je serais jamais allé, sinon. J'ai décidé d'aller en voiture à Tucson. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai même jamais mis les pieds à la campagne. Alors j'ai pris la nationale. J'ai conduit dans le désert à plus de 80 à l'heure. Au bout d'un moment, j'ai eu la route à moi tout seul. Il n'y avait plus que moi, la chaleur et la poussière. J'ai fait exactement ce que disait la lettre. Ne suis aucun panneau, ne t'arrête sous aucun prétexte. Même pas devant une barrière. Mais à un moment, je me suis dit que quelque chose clochait. J'aurais dû approcher de la ville. Rien ne bougeait. Il n'y avait aucune vie. Tout était figé, silencieux. Je suis descendu de voiture. Et ce que j'ai vu m'a glacé jusqu'au tréfonds de mon âme insignifiante. Ouais, tout était vrai. C'est qu'un attrape-nigo, une chimère.
Pourquoi diable Fuller m'aurait-il parlé des limites de la simulation? Je les connais, les limites.
C'est à mon tour de te questionner, là! Je veux savoir pourquoi. Pourquoi vous nous faites subir tout ça? Mais merde, mais pourquoi vous jouez avec notre cervelle comme ça?
Vous n'étiez pas censé découvrir la vérité.
Mais c'est raté. Alors, montre-moi un peu. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça, c'est vrai?
À noter qu'en 1973, une première adaptation du roman a vu le jour sous la forme d'un téléfilm allemand, c'est Le Monde sur le fil de Rainer Werner Fassbinder. Car oui, à la base, Passé virtuel est connu sur papier sous le nom de Simulacron 3 de Daniel Gayoug, qui met en scène une machine permettant de simuler un monde avec ses habitants à des fins d'études. Mais quel monde est vraiment réel, hein? Donc Joseph Ruznak, inconnu qui le restera, livre un film franchement passionnant, qui va malheureusement souffrir de la comparaison de deux monuments du genre sortis quasiment au même moment au cinéma. C'est Dark City d'Alex Proyas et bien évidemment Matrix, le classique instantané des sœurs Wachowski. Alors s'ils n'arrivent pas à leur cheville en raison d'une réalisation classique et efficace, mais franchement sans aucun véritable relief, alors c'est un comble pour un film traitant de réalité virtuelle, il a au moins le mérite d'aborder la thématique de la manipulation des simulacres et des simulations sous un autre angle qu'on se gardera trop de vous déflorer. Alors le film est nominé en l'an 2000 au Saturn Award du meilleur film de SF, perdant face à Matrix, encore une fois, creuse plus profondément que Dark City le terme gnostique, que le monde et sa réalité sont une simulation holographique. Proche de notre écrit de K. Dick, lui aussi adapté sur grand écran, soit Total Recall, il pavera humblement la voie d'une SF sobre qui part de Existence pour arriver, selon moi, en 2001, au chef-d'œuvre de Mamoru Oshii, Avalon. Et il faut bien se dire que si tout cela tendait à être virtuel, il reste la magnifique Gretchen Moll pour se raccrocher coûte que coûte aux lois de la physique de notre monde qui prouve qu'il ne manque pas de véritables merveilles.
Allez, moi je vous propose un combo, passé virtuel, peut-être le Alex Proyas, et puis Dark City, et puis Matrix. À voir.
Et puis c'est vrai que le Fassbinder, je ne savais pas que c'était l'adaptation de ce roman en fait.
Mais c'est la même sorte.
Et ouais. Moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, le film de Fassbinder, et c'est absolument remarquable.
Téléfilm. Hein.
C'est un téléfilm, ouais. Oui, c'était un feuilleton en fait, en plusieurs épisodes, et c'est vraiment étonnant en fait.
Surtout que là pour le coup, à l'origine, on est loin de l'explosion des univers virtuels qu'on connaît dans les années 90,
c'est-à-dire...
et dans lequel baigne malheureusement un peu trop assez virtuel pour se démarquer. Là, c'est, comme tu le dis, c'est totalement inédit.
Puis le Fassbinder, il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi. C'est vraiment sur cette thématique du voyage, dans le temps, plus ou moins, et c'est vraiment sur la thématique, mais il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi. Par contre, c'est absolument passionnant sur le plan du récit.
Et ben voilà, on vous en donne des idées.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine chacun avec nos séries. Moi, ce sera le générique et je vous parlerai essentiellement de James Bond.
Et moi, je vais vous parler d'un film malheureusement pas très connu, mais qui mérite toute votre attention, c'est Real Life.
Et après, bah, le controversé Revenge, un autre film controversé, ce sera Titane de Julia Ducournau.
Et je vous parlerai aussi du film de Jacques Audiard qui sort sur les écrans. Merveilleux film.